Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, ça fait un grand plaisir d'être ici parmi vous. Donc, quand Philippe m'a demandé de faire un exposé pendant ce colloque, donc souvent on m'invite en fait pour parler d'Ante Scoffo. Donc, en quelques mots, je pense que ce matin vous avez entendu parler d'Ante Scoffo par le compositeur José Miguel Fernandez. C'est un système en fait qui écoute le musicien sur scène, qui apprend en quelque sorte son style de jeu et qui est capable d'interpréter sa propre partie. Souvent, c'est des parties électroniques, électroacoustiques composées par des compositeurs comme José Miguel Fernandez, Philippe Manoury ou Yann Maresch qui vient d'entrer, où ça peut être toutes sortes d'autres actions. Et depuis quelques mois, j'ai quitté le laboratoire pour ramener l'utilisation d'Ante Scoffo vers le grand public. En gros, ça va permettre à tout à chacun de pouvoir jouer, par exemple, des concertos à la maison en personnalisant son propre interprétation. Donc, quand on m'a invité pour cet exposé, je me suis dit que peut-être je ne vais pas parler d'Ante Scoffo pour une fois. Je vais parler d'un sujet plus global, peut-être plus actualité, qui touche beaucoup le monde d'actualité aujourd'hui, mais qui a des conséquences assez importantes en fait pour le monde de la création. Et comme c'est pas tous les jours en fait qu'on peut parler du monde artistique et création musicale sans crainte, je me suis dit c'est le jour en fait où on peut parler entre nous des défis et défauts d'intelligence artificielle pour écriture musicale. Donc, sachez que la musique était un thématique extrêmement vif au début de la fondation d'intelligence artificielle. Donc, dès le début de la constitution de l'intelligence artificielle comme une thématique de recherche et comme une science à part entière, les chercheurs ont tout de suite commencé à fantasmer sur la musique. Un ordinateur qui crée la musique, un ordinateur qui joue de la musique. Et ce fantasme existait dès le début de l'informatique elle-même. Quand on regarde les manuscrits du 19e siècle, on trouve des correspondances de Charles Babbage, qui est le père des ordinateurs, des machines à calcul, et Ada Lovelace. Et Ada Lovelace, dans multiples lettres qui ont été publiées par la suite, parle des lois d'harmonique, par exemple, et comment les machines peuvent être utiles pour, par exemple, les répliquer, composer la musique ou aider l'homme à concevoir de la musique. Donc, l'histoire de la musique à intelligence artificielle n'est pas nouveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'après les années de fondation d'intelligence artificielle, quelque part, en fait, l'impact de la musique en intelligence artificielle a été oublié. Pour une raison très simple, parce que les données musicaux sont tellement complexes, et sont tellement difficiles à atteindre, disons, un résultat qui ont tangible pour des sujets de marketing, que les chercheurs ont préféré en fait se concentrer sur des problématiques plus simples. Et ces dernières années, j'ai envie de dire même ces derniers mois, en fait, on a le retour d'intelligence artificielle et musique dans les médias et même chez des géants d'informatique. Juste pour vous donner quelques idées, donc j'ai juste tapé intelligence artificielle et musique, on tombe sur des centaines d'articles qui ont été publiés juste ces derniers mois. Et donc MusicNet qui veut donner un goût de Beethoven à des algorithmes, la machine d'intelligence artificielle de Google qui vous propose à faire des duets en jam session, SoundCloud qui va utiliser des algorithmes d'apprentissage pour vous aider à trouver des tracks qui vous plaisent. Quand l'intelligence artificielle imite l'artiste, un faux Beatle composé par une machine, et Spotify qui vient juste il y a quelques jours à racheter une boîte d'intelligence musicale artificielle française pour rajouter à son arsenal. Et donc, en fait, dans cet exposé, si vous voulez, je vais distinguer entre deux choses fondamentales. intelligence artificielle pour les musiciens et pour la musique, et l'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle. Donc, c'est un peu comme l'art pour l'art, mais essayons de le distinguer sans préjudice. Donc, en fait, ce qui m'intéresse en tant que chercheur et maintenant entrepreneur, c'est une intelligence artificielle qui va augmenter les capacités humaines. Donc, pour moi, une bonne intelligence artificielle, c'est une intelligence artificielle qui nous augmente dans nos capacités actuelles, que ce soit la composition ou jouer de la musique ou la performance ou toutes les activités qui l'entourent. Ces recherches doivent aussi nous aider à mieux comprendre les phénomènes naturels qui existent. Je ne m'intéresse pas forcément à tout ce qui est imitation pour imitation ou tout ce qui relève de réalisme naïf. Et on va revenir là-dessus tout de suite. Et donc, dans cet exposé, je vais esquisser certains défauts d'intelligence artificielle, certains pièges, grands pièges d'intelligence artificielle qui sont extrêmement, utilisant le mot anglais, sexy pour tous les outils de marketing, mais qui peuvent ne pas être utiles pour l'acte de la création musicale. Mais en faisant ça, je critique évidemment mes confrères, tout en étant chercheur, toujours, mais j'ai énormément de respect pour tous les travaux faits, mais je mets le doigt en fait sur certains aspects qui peuvent générer de la communication, mais qui ne peuvent pas avancer la connaissance en matière, que ce soit artistique ou scientifique. Et pour voir certains de ces défis et défauts en action, il y en a certains qui ne sont jamais réalisés, heureusement, je vous invite à venir au cours, au séminaire que je vais faire conjointement avec Gérard Berry le 16 juin au collège. Donc là, on va parler vraiment des défis d'intelligence artificielle de Dante Scofo et comment ça se marie avec une pratique musicale qui va être suivie également par un concert où on va voir l'outil vraiment en action. Donc, la première défaut de science d'artificielle, c'est le danger de réalisme naïf. Donc, ce diaporama que vous voyez à droite, c'est un diaporama que j'ai téléchargé juste à l'instant, il y a 20 minutes, sur Internet. Ça vient d'un cours dans une université très prestigieuse sur la perception de la musique. Sur la perception de la musique, en gros, ils nous disent comment est-ce qu'ils essaient d'apprendre aux élèves comment est-ce que le cerveau gère l'attente des auteurs en musique. Donc, en gros, on apprend que quand il y a des grands intervalles, des grands sauts d'intervalle en hauteur, notre cerveau a une préférence pour que ce qui suit soit dans le sens inverse. C'est un phénomène qu'on appelle post-skip reversal. Alors, c'est un phénomène très intéressant. Je suis même étonné qu'il ait enseigné aujourd'hui dans les universités prestigieuses. Parce que, en fait, il s'agit d'une loi qui existe, je ne sais pas si c'est toujours enseigné, en contrepoint, le son inverse, comment est-ce qu'on appelle ça en français dans les écoles ? Rétrograde. Donc, c'est le rétrograde. C'est le fameux rétrograde en contrepoint, c'est toujours enseigné, il n'y a aucun problème avec ça. Le réalisme naïf rentre en jeu quand les chercheurs comme moi, ils regardent ce type de loi, ils disent que ce loi existe parce que notre cerveau a une préférence en fait pour le rétrograde. Et comme vous voyez, il est toujours enseigné. Il y a même des chercheurs qui ont essayé de le prouver en faisant des tests au laboratoire sur les êtres humains et aussi sur les données, sur les big data. Mais on sait depuis à peu près une dizaine d'années que ce phénomène rétrograde, même si c'est une loi respectée dans les lois d'harmonie et contrepoint, c'est absolument pas un phénomène dans le cerveau. Et en fait, ce qui gère notre phénomène de rétrograde dans le cerveau, c'est un phénomène beaucoup plus simple, qui est que nous avons tendance en fait à préférer les hauteurs en fait qui va nous ramener vers une sorte de hauteur moyenne dans la musique courante. Donc si l'auteur moyen dans la musique courante va dans la même direction, évidemment, il n'y a pas de rétrograde. Donc, le réalisme naïf, en fait, ça se produit quand on fait de la recherche, même avec des tests en laboratoire, pour lier un phénomène observé à un phénomène qui devient perceptif et qui est censé constituer de la connaissance. Alors, les chercheurs, en fait, qui ont trouvé ce bug, si j'ose dire, en tant qu'informaticien, ils ont trouvé que, en fait, il y a une seule exception dans toutes les musiques du monde où ce phénomène de rétrograde est toujours respecté, c'est dans la musique de Palestrina, pour une raison simple, parce que c'est lui qui a inventé la loi. Donc au moins, il a tenu à respecter ce qu'il a mis en marche. Donc c'est un exemple parfait de réalisme naïf. Alors les exemples un peu plus abstraits de réalisme naïf, c'est tous les travaux en fait aujourd'hui qui sont très médiatiques sur tout ce qui est, par exemple, classification de l'émotion musicale. Je peux vous dire. C'est quoi un morceau ennuyeux? C'est quoi un morceau gay? Alors, en disant ça, je ne suis pas en train de dénigrer les travaux en fait qui sont faits autour de ça. C'est certainement des outils en fait qui ramènent beaucoup d'argent à des gens qui le déploient. Mais mon point ici, est-ce que ces travaux qui amènent de l'intelligence artificielle n'augmentent pas la capacité humaine et qui ne va pas nous aider à comprendre pourquoi un morceau est ennuyeux, pourquoi c'est gay, pourquoi ceci et cela. En quelque sorte, tous les travaux sur la classification de genre, c'est du même type. Et encore une fois, c'est des outils de marketing extrêmement utiles. Mais ça n'augmente pas la capacité d'humain, surtout pas pour l'écriture musicale. Le deuxième grand danger d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le danger des grandes données simplistes. Donc, si vous ouvrez les journaux, tous les jours on parle de big data. Alors, je vais vous donner des exemples très concrets. Dans notre domaine, ça veut dire dans la recherche en informatique musicale, il existe une communauté internationale qui s'appelle MIREX, constituée des grands chercheurs dont j'en fais partie, pas en tant que grand chercheur, en tant que chercheur tout court, et où nous évaluons ensemble des algorithmes. Donc ça veut dire que je relève un matin, je dis que j'ai un algorithme, intelligence artificielle ou pas, qui fait telle ou telle chose. On va organiser des compétitions, on va évaluer quel est l'algorithme le plus performant. Alors si vous regardez en fait, et souvent en fait pour voir quel est l'algorithme le plus performant et ensuite faire des articles de presse, on construit des grandes bases de données. Des grandes bases de données de musique, par exemple. Il existe une compétition dans MIREX pour tout ce qui est découverte de la structure musicale. Ça veut dire qu'on lui donne plein de morceaux de musique et l'algorithme va, en quelque sorte, de façon aveugle, découvrir la forme musicale sous-jacente. Est-ce que c'est une sonate? Est-ce que c'est un rondo? Est-ce que c'est une forme de symphonie? Etc., etc. Or, quand on regarde les données en fait, qui sont utilisées pour ces compétitions, qui par la suite font la une des journaux, on découvre que la grande majorité en fait, des morceaux qui y sont, en fait, c'est des morceaux qui se réduisent à des chorus et des verses. Ça veut dire des formes extrêmement simplistes. Et donc, si vous voulez, moi, en tant que chercheur, si mon objectif est de gagner une telle compétition, ben, je vais concevoir un algorithme qui va juste découvrir des chorus et verses, qui va parfaitement classifier et découvrir des structures des morceaux de Beatles, mais ça constitue à aucun moment une intelligence en soi pour décrire la forme musicale sous aucune forme. Et en fait, cet exemple que je vous donne, malheureusement, ça existe dans tous les domaines d'intelligence artificielle qui ramène de ce qu'on appelle Big Data aujourd'hui. Donc il faut faire extrêmement attention à ça et surtout à des conclusions qui sortent, qui peuvent tout de suite tomber dans la piège de réalisme naïf. Alors, quand on regarde les textes des pères fondateurs d'intelligence artificielle, mon texte favori est « La science d'artificiel » de Herbert Simons, qui a gagné aussi un prix de Nobel d'économie, si je ne me trompe pas. Alors, le livre de Herbert Simons, c'est le livre qui a en quelque sorte construit la base de curriculum de l'informatique telle que ça existe aujourd'hui, au moins dans les universités américaines dont j'ai fait mes études. C'est un texte extrêmement intéressant. Il donne un exemple très frappant. Il parle des colonies des fourmis. Parce que c'est un problème très intéressant en intelligence artificielle. Comment ça se fait que les fourmis arrivent à toujours trouver le chemin vers leur palais quand ils vont chercher de la nourriture, etc. Et donc, en fait, il montre très bien que la complexité de comportement collectif des fourmis n'est pas liée à la complexité de leur algorithme, mais c'est lié à la complexité de leur environnement. Si on met les fourmis dans un environnement complètement plat, ils vont jamais acquérir une intelligence complexe. Le fait est qu'ils ont un cerveau et un comportement collectif complexe, c'est dû à la complexité de leur environnement. Donc il faut être extrêmement vigilant à garder un minimum de complexité dans l'environnement des données qui régit la recherche et la connaissance aujourd'hui. En quelque sorte, il existe beaucoup de systèmes musicaux aujourd'hui qui fournissent ce qu'on appelle des imitations de style. On en a vu quelques-uns en fait dans les articles de presse que j'ai cités. Je peux vous sortir des algorithmes en fait qui peuvent vous composer des inventions de Bach, par exemple, ou des morceaux de Beatles. Il y en a beaucoup de ces algorithmes en fait qui tombent dans le même piège, où au final, on n'apprend pas grand-chose sur la complexité réelle qu'il existe dans le phénomène de la composition. Je ne vais certainement pas l'utiliser pour écouter un morceau de Bach, parce qu'au final, un morceau de Bach, il est mieux que celui qui est composé. Même les tests de Turing qu'ils font aujourd'hui le montrent. Alors, ça ne veut pas dire que ces recherches-là sont inutiles. Je peux vous citer au moins un exemple, c'est les travaux de François Paché à Sony Computer Science Lab, qui essaie d'aller, avec son Flow Machine, qui essaie d'aller vers les questions le plus approfondies, en fait, de la gestion de planning en court terme et long terme et les stratégies de génération qui peuvent nous apprendre des choses et qui peuvent devenir aussi des outils intéressants pour l'écriture musicale. Mais malheureusement, il y en a beaucoup d'autres en fait qui sont très bien pour sortir des articles de presse, mais en soi, ils ne sont pas intéressants. Enfin, il ne faut pas oublier que quand on est dans le domaine de la création musicale, les évaluations quantitatives sont toujours intéressantes, mais les évaluations qualitatives sont plus importantes. Alors là-dessus, chez Antescofo, nous avons énormément d'expérience parce que nous avons eu la chance de travailler avec beaucoup de compositeurs. Je me souviens, le jour où j'ai publié l'article fondateur de Antescofo dans la revue le plus importante d'intelligence artificielle, en fait, l'article a été refusé plusieurs fois de suite parce qu'il voulait absolument que je mets un chiffre en leur montrant que mon algorithme, il fait 2% mieux que l'autre algorithme. Or, ça n'a aucun sens. Je peux montrer en fait que mon algorithme, il marche peut-être 5% mieux qu'un autre algorithme sur un morceau de Mozart donné. Mais au final, si on veut faire de la musique et jouer de la musique avec, ce n'est pas les chiffres des pourcentages d'erreurs et précisions en fait, qui vont montrer aucune valeur que soit sur l'expérience qu'un être humain peut avoir avec une machine en interaction avec. Donc ça aussi, c'est un deuxième danger de l'intelligence artificielle, les grandes données simplistes. Alors, le troisième danger, c'est le danger de la perfectionnisme algorithmique. Alors, je m'explique. Nous avons tendance à sortir des algorithmes qui sont parfaits. Prenez un exemple très simple. Dans Antescofo, que vous allez voir en détail dans l'exposé de Jean-Louis Jabiteau dans quelques heures, il existe une machine d'écoute, une machine qui écoute le musicien sur scène. Donc il essaie de l'écouter et synchroniser sa propre partie en fonction de ce qu'il entend. Nous avons fait pendant des années et des années l'erreur de vouloir perfectionner l'algorithme d'écoute dans Tescofo. Or, au final, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est que l'action de la machine, en tant qu'un musicien en soi, soit le plus parfait possible. Et quand on regarde les musiciens humains, ils ne sont pas en train de s'écouter avec une écoute parfaite. Donc, le troisième danger, c'est la perfectionnisme algorithmique, qui est en gros le même phénomène dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on veut toujours pousser les erreurs 1% de plus par rapport à l'année dernière. Et donc, les systèmes parfaits humains ou même des systèmes artificiels parfaits aujourd'hui sont des systèmes qui sont composés des composants complètement faillibles. En Tescofo est composé de plusieurs composants dont en soi, ils n'ont aucune valeur. C'est quand on le met ensemble qu'ils peuvent éventuellement sortir un comportement plus intéressant. Et ce qui nous ramène aussi à l'acceptation de défauts. Ça veut dire qu'un algorithme ne peut jamais être parfait, surtout quand il s'agit des algorithmes en fait, qui sont sur des systèmes de sécurité, de l'hôpital, des hôpitaux et aussi des avions. Je pense que Gérard Perry, ici, en a parlé beaucoup dans ses exposés, qui est la question de tolérance aux fautes. Quand il y a deux musiciens qui jouent sur scène, s'il y en a un qui fait une petite erreur, il ne s'arrête pas. C'est stupide de le dire, mais en informatique, si vous voulez, c'est un grand barrière psychologique à franchir pour pouvoir faire un système qui est utile dans le processus de création musicale. Et donc, la question de machine parfaite, c'est une question mal posée. Et donc, ça, c'est aussi un sujet qui revient souvent. On veut toujours améliorer les algorithmes en soi, mais ce qui est important, c'est le perfectionnisme d'un système en soi qui va interagir avec l'homme. Donc, après ces trois, disons, défauts, on va peut-être parler de trois défis importants. Donc, un des défis le plus important pour moi, c'est la question de coordination complexe. Alors, aujourd'hui, en Tescofo, on arrive à coordonner les actions de la machine avec un musicien sur scène, mais quand on regarde la coordination humaine, en fait, c'est un phénomène extrêmement complexe, extrêmement intéressant. C'est décentralisé, ça veut dire que même quand il y a un chef d'orchestre, on ne peut pas dire qu'il est le seul façon de communiquer entre les musiciens de façon complètement centrale. Il y a des communications qui ne sont pas synchrones, il y a des communications qui sont souvent asynchrones, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas en même temps pour prendre la bonne décision, mais pourtant, chaque soir où vous allez entendre un morceau une symphonie de Beethoven ou un Mozart, vous savez pertinemment ce que vous allez entendre, et vous allez l'entendre malgré toutes les variations. Donc, ces systèmes de coordination complexe chez les humains, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à ramener en intelligence artificielle. Et il faut encore beaucoup travailler pour y arriver. Et à cela, j'ajoute le fait que c'est aussi une question multisensorielle. L'écoute seule ne suffit pas. C'est un ensemble de plusieurs perceptions qui sont en marche, tous faillibles, pour revenir sur le point précédent, qui donne un résultat complexe et intéressant et peut-être plus parfait que si on utilisait un seul moyen de communication. Et enfin, un défi extrêmement intéressant pour l'intelligence artificielle, c'est ce dont je pense que Jean-Louis va parler en détail, on va élaborer avec Gérard Berry le 16 juin ici même, c'est l'écriture de la coordination. Pour le chercheur que je suis, quand je regarde une partition de musique classique, on n'est même pas obligé de regarder des morceaux très complexes, ou même une pratique musicale plus ou moins écrite de musique ancienne ou musique ethnique, on voit une écriture de coordination, ça veut dire utiliser des signes qui se fait que 150 musiciens sur scène sont capables de jouer le même morceau que vous savez pertinemment ce que c'est, mais qui va être différent. Et ce phénomène d'écriture est extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, avec les machines, on a extrêmement du mal à ramener cette souplesse à la fois de l'écriture, ça veut dire expressivité, pouvoir exprimer des choses si souples et grandioses pour la machine, et être sûr que ça va s'incarner aussi au moment de son exécution. C'est un grand défi qu'on nous sommes donné à Antescofo. Je peux vous dire qu'on n'est même pas encore à mi-chemin. Alors pour ça, il ne faut pas regarder juste des grands orchestres. Hein. Juste si vous regardez juste un seul pianiste qui est en train de jouer un morceau de Chopin, un nocturne de Chopin, si vous regardez la partition, si vous lisez la musique, en fait, vous voyez la main gauche et main droite qui sont parfaitement écrits de façon synchrone, mais quand il le joue, en fait, ils sont complètement désynchrones. Ça fait partie de l'interprétation. Et en fait, cette asynchronie, ça ramène une musicalité et ça émane d'une prise de décision chez l'homme intelligent, et on a vraiment du mal en fait à voir comment on peut prendre des décisions synchrones avec une telle asynchronie. Donc ça, c'est un défi extrêmement important. Le sujet suivant dont je parle toujours et souvent, c'est le temps. Donc en intelligence artificielle, on a souvent sous-estimé l'importance du temps. Et moi, je suis convaincu qu'une des raisons pour laquelle l'intelligence artificielle a oublié la musique pendant à peu près 40-50 ans et que maintenant ils reviennent, c'est parce qu'on n'a jamais voulu explicitement attaquer la question de comment le temps passe. Donc, comment le temps passe chez l'humain, c'est une question extrêmement complexe. Souvent, j'ai l'habitude, en fait, dans mes exposés, de jouer deux interprétations d'une fugue de dièse mineure de Bach, un par Gould, un par Richter. Quand je joue les 10 premières mesures, en fait, tout le monde trouve que c'est à peu près le même temps qui est passé, mais en fait, celui de Richter, il est deux fois plus long. Donc, la question de comment le temps passe est extrêmement importante. Et en musique, que ce soit pour l'écriture ou l'interprétation ou perception artificielle, tout ce que vous voulez, ça ne rigole pas. Donc, pendant des années, nous avons pris des algorithmes qui venaient, par exemple, de la recherche en parole. Or, en parole, en fait, sauf si vous voulez faire des analyses syntaxiques, si vous voulez juste reconnaître les phonèmes, vous n'êtes pas sur des échelles de temps extrêmement grandes. Or, en musique, si vous voulez même reconnaître une note, vous êtes sur une échelle, vous pouvez être sur une échelle de microsecondes à, évidemment, quelques secondes si la note dure très longtemps. Et c'est devenu un grand problème chez les chercheurs. Et c'est pour ça qu'en quelque sorte, des systèmes de perception artificielle en musique sont un peu en retard par rapport à d'autres parce qu'il faut regarder les modèles explicites du temps en musique de façon concrète. Et comme vous voyez, en fait, en musique, il y a plusieurs échelles du temps qui coexistent. Donc, on passe de l'échelle sémantique avec des taux d'arrivée complètement différents. Et évidemment, tout ça, c'est très approximatif. Sémantique, symbolique, contrôle. Par exemple, le contrôle, ça peut être le geste en fait, de musicien, du signal, le son elle-même, ou physique. Physique, ça veut dire je tape sur cette table et en fait, il vibre et ça me crée un son. Ils sont tous sur des échelles différentes et ils coexistent tout le temps ensemble. Donc on ne peut pas raisonner sur une seule échelle du temps. On est dans un système très complexe qui amène des modèles pluriels du temps qui sont hétérogènes et il faut l'accepter, il faut l'attaquer, il faut arrêter de faire l'abstraction du temps. Donc ça, c'est un défi extrêmement important pour l'intelligence artificielle. Et si on ne le fait pas, on ne peut pas faire de la bonne musique avec, tout simplement. On va être dans des données simplistes. Et enfin, pour finir mon exposé, je vais mettre en défi le phénomène des petits ou rares données, à l'opposition de ce qu'on appelle big data. Il faut se rappeler que des phénomènes le plus incroyable dans la nature, ça vient des données rares. Quand il y a une catastrophe naturelle, ce n'est pas parce qu'on a observé des centaines d'années des données météorologiques. ça se produit en une fraction de seconde et ça crée un ouragan. Quand il y a des catastrophes du genre, je pense qu'il y a, il y a une dizaine ou vingtaine d'années, il y a eu une catastrophe en Amsterdam pour... Il y a eu des inondations parce qu'il y avait des systèmes qui contrôlaient les entrées et sorties des eaux dans les canaux, des systèmes évidemment informatisés. Évidemment, c'était des données rares en fait qui ont fait qu'il y a eu une catastrophe. Et on peut donner des multiples d'exemples. Et pour moi, la raison pour laquelle la musique, l'expérience musicale est significative, que vous soyez un simple écouteur de la musique ou compositeur ou musicien qui joue de la musique, ça amène des phénomènes rares. Et donc nous avons du vécu avec ça dans Antescofo. Quand on voulait faire un système entre guillemets qui marche, on ne pouvait pas regarder des grandes données et des heures d'enregistrement pour regarder que notre pourcentage de notre précision la précision de notre système était 90%. 99%, c'était le 1% qui était important. Parce que quand vous êtes en concert et que notre système fait arrêter votre concert, je pense que Philippe a beaucoup de vécu là-dessus, c'est toujours le 1% en fait qui prime. Donc ça, c'est pour les chercheurs que je suis. Et aussi, on peut ramener cet raisonnement aussi sur tout ce qui est l'émotion musicale. L'émotion musicale, il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Je pense notamment à l'excellent livre de David Huron, qui travaille dans le département de sciences cognitives, qui a publié un livre il y a quelques années à MIT Press qui s'appelle Sweet Anticipation, qui montre que les données qui engendrent l'émotion musicale sont des données rares et c'est des données localisées. On ne peut pas dire qu'une musique est simplement gay en regardant des grandes données. On peut évidemment le dire, personne ne l'interdit, mais on n'apprend rien, mais ça n'avance pas la connaissance. Peut-être pour terminer, je veux aussi souligner dans cette assemblée, puisqu'on est un peu entre nous, que si nous avons eu le moindre succès sur le projet Antescofo, c'était aussi parce que nous avons travaillé avec des gens rares, des gens qui prennent énormément de risques, des compositeurs qui sont tout le temps en train de mettre au défi la création musicale, la pensée musicale, le langage musical, comment ça s'incarne d'un papier sur scène. Et c'est aussi cette vertu de petit nombre qui peut créer de la grande connaissance. Et je finis mon exposé par une citation d'André Gide sur la vertu des petits nombres quand il a eu son prix de Nobel. C'est quelque chose à laquelle je crois énormément. Merci beaucoup pour votre attention.